France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Titouan Lamazou, artiste vagabond.
Premier épisode, l'esprit voyageur. Bonjour Titouan Lamazou.
Bonjour.
Les plus âgés de nos auditeurs et de nos auditrices vous connaissent avant tout, je pense, par vos exploits maritimes. Et pensent que vous êtes d'abord un navigateur en ayant en mémoire votre compagnonnage avec Éric Tabarly, puis les courses qui vous ont valu d'être champion du monde au large dans les années 80-90. Mais les plus jeunes connaissent peut-être d'abord vos toiles, puisque vous êtes peintre, que vous dessinez depuis aussi longtemps que vous voyagez et que vous voyagez depuis que vous êtes né. Vous êtes l'auteur d'une œuvre considérable, comme en témoignent les très nombreux et très gros livres que vous avez publiés. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes un voyageur, un nomade. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre présentation. Un peintre vagabond, comme vous aimez à vous présenter. Et pourtant, vous n'étiez pas destiné à voyager. Si je prends juste votre nom de famille, Lamazou. Lamazou, c'est la maison dans le patois béarnais de votre enfance.
Oui, on dit Lamaizou.
Ah ben voilà, en
plus. Lamaizou. C'est le nom, la maison, c'est tout à fait sédentaire comme patronyme.
Donc vous avez voulu vous échapper de vos origines, c'est ça?
Oui, enfin, si je suis né au Maroc, c'est parce que mon père était sorti de son Béarn natal quand même un petit peu.
Oui, parce que vous dites voilà. dans l'un de vos ouvrages, je crois que c'est dans Femmes du Monde, je suis béarnais par mon père et romantique par ma mère. Alors on va commencer par le père, on va faire dans l'ordre. Béarnais, donc.
Béarnais, oui, mon père s'appelle Lamazou, c'est un, je pense que de mémoire familiale, les Lamazou ont toujours habité en Béarn. Et d'ailleurs, c'est assez, on a eu, une filiation assez symptomatique du XXe siècle, en tout cas. Parce que pour raconter l'histoire de mon père très brièvement, si ça intéresse les auditeurs, mon père, quand il est arrivé à l'école, cours préparatoire, il parlait pas français. Il parlait le patois béarnais, comme la plupart de ses camarades. Et c'était une époque où ses malheureux enfants étaient punis pour ça. Et mon père a, contrairement à son frère, mon oncle et à tous ses petits camarades, ne s'est pas arrêté au certificat d'études, puisqu'il avait été remarqué à l'époque, non pas par l'instituteur, mais par le curé du village. Et le curé du village avait dit, ce petit, quand même, ça serait dommage qu'il interrompe ses études pour retourner à la ferme de mes grands-parents. Et il avait œuvré pour faire entrer mon père à une école qui est bien connue aujourd'hui, qui s'appelle Bétarame.
Qui n'a pas très bonne réputation, disons aujourd'hui. Qui n'a plus très bonne réputation.
À une époque, elle avait une réputation, effectivement, de sévérité. Et mon père a fait toute sa scolarité, de façon brillante, d'ailleurs, à Bétarame. Puis il est rentré, la légende de la famille raconte qu'il n'a pas pu intégrer l'école polytechnique, parce que le jour de l'oral, il y avait un événement qu'il ne voulait surtout pas rater. L'événement, c'était le derby Pau-Tarbes rugby, auquel il voulait assister. À l'époque, il n'y avait pas la télévision, encore moins de podcasts en tout cas. Et donc voilà, donc il a intégré Centrale et il a fait une carrière d'ingénieur et non pas de paysan.
Quand on mélange père et mère, c'est-à-dire le côté béarnais du père et le romantisme de la mère, est-ce que ça donnerait, Titouan Lamazou, un peu la figure du grand-père maternel, qui était d'origine allemande, qui a vécu au Laos, avec une vie assez aventureuse et assez amoureuse?
Oui, alors ce grand-père-là, je ne l'ai pas connu, parce qu'il était aventurier, voyageur. Et on connaît très mal ses origines. D'ailleurs, je crois que la plupart d'entre nous, au-delà du grand-père, on ne sait pas trop d'où on vient. Hein, de toute façon, quand on...
Ou là, il faut faire vraiment des recherches poussées.
Oui, on doit pouvoir faire ça. Et il se trouve que, oui, ce grand-père maternel, je n'ai pas connu, parce qu'il était ingénieur, ça, on en est certain, et ingénieur des ponts et chaussées, et qu'il avait été envoyé pour fabriquer des ponts au Laos. Il n'est jamais revenu. Il s'est installé au Laos, il a laissé tomber sa famille, dont ma mère. et je l'ai revu une fois de dos, il me semble. Enfin bon, mais c'était un voyageur et qui a peut-être eu une influence sans que je le sache
c'est
dans mon existence,
parle,
puisque j'ai hérité de lui quand même d'un coffre avec des comment on appelle ça, des daguerréotypes, des photos stéréo qu'il prenait. Il était un très très bon photographe et quelques aquarelles. Donc il peignait aussi. Donc voilà, c'est un aventurier, peintre mystérieux. Voilà. Ma grand-mère était institutrice, ce qui ne faisait pas rêver mon grand-père a priori. Et ma mère a fait aussi des études supérieures puisqu'elle est, elle, entrée à Polytechnique, mais c'était un temps où Polytechnique, c'était Polytechnique féminine. En fait, mes parents se sont connus en train de dessiner des turbines d'hélicoptères dans une boîte qui s'appelait Turbomeca dans le Béarn. Et voilà. Sauf que ma mère, elle, n'a pas poursuivi une carrière professionnelle d'ingénieur, parce qu'elle n'aimait pas du tout le monde de l'entreprise, et qu'elle a essayé, et ce qu'elle nous a entouré d'ailleurs de beaucoup d'amour d'une part, et aussi, transmis un amour de la nature, c'est-à-dire qu'elle a fait de notre domicile au début en Béarn, et par la suite, une sorte de paradis pour le vivant, que ce soit le vivant végétal ou animal.
Ça, on le retient aussi.
Voilà. Hein? Ma mère était, contrairement à mon père, depuis que René Dumont s'était présenté aux élections comme le premier candidat écologiste, elle a toujours voté écologiste toute sa vie.
Et qu'avait-elle de romantique alors, puisque vous dites que vous êtes romantique par votre mère?
Oui, c'est une façon, amusante de présenter la chose. Je l'appelle romantique parce que c'était une rêveuse. Une rêveuse, pas forcément heureuse, mais rêveuse. Quand je lisais La promesse de l'aube de Romain Gary, j'avais l'impression d'avoir vécu la même histoire que Romain Gary, quoi, quasiment. Avoir un amour de sa mère que La promesse de l'aube, que la vie ne tient pas, n'est-ce pas?
Alors, on a commencé par le Béarn, ancrage de la famille, mais de fait, Titouan Lamazou, vous êtes né au Maroc.
Oui.
Vous êtes né à Casablanca en 1955. Comment se fait-ce que vous soyez né au Maroc?
Bon, mes parents étaient des expatriés, ingénieurs l'un et l'autre à l'époque. Ils ne sont pas restés très longtemps. Et je ne
Ils
garde.
Vous êtes parti avant la décolonisation?
Ben oui, c'est-à-dire que je suis né en 55, la décolonisation.
Enfin, c'était 56?
C'était 56, vous voyez, j'ai vécu 2 ans, c'est un grand maximum. Mais je pense, en ce qui me concerne en tout cas, que le fait d'être né quelque part, même si je n'ai aucun souvenir de mon enfance au Maroc, j'ai gardé un attachement pour ce pays et un lien, enfin un sentiment d'appartenance en tout cas. C'est pas pour rien d'ailleurs si les 3 premiers livres que j'ai publiés sont inspirés par des séjours que j'ai eu envie de faire très tôt, de revenir dans ce pays de ma naissance. Et puis il y a aussi une chose qui a compté dans ma vie quand même, c'est mon prénom. Mon prénom qui était un surnom, et là à nouveau la légende de la famille veut que les Marocains confondait Antoine, petit Antoine, parce que c'était le prénom plus commun que m'avaient donné mes parents, avec la ville de Tétouan. Et il m'appelait Titouan, et ma mère a trouvé ça charmant, l'a conservé comme surnom, et il a fallu que j'attende 30 ans pour que ce surnom devienne officiellement mon prénom. J'étais déjà un marin à l'époque, j'avais 29 ans, quelque chose comme ça. Et je venais de remporter une étape de la course qui s'appelait alors le Box Challenge, la deuxième étape de la course qui partait de Cape Town en Afrique du Sud jusqu'à Sydney en Australie. Et là, j'ai remporté cette étape et mon sponsor qui était fort satisfait de moi, qui était Monsieur Jacques Chaban-Delmas, le maire de Bordeaux, pour me remercier, a accepté de me payer un jeu de voile neuve pour l'étape suivante. Et il m'a fait envoyer en Australie des caisses pleines de voiles, toutes neuves, que je suis allé chercher à la douane, et sur mon passeport, sur les caisses, il y avait marqué Titouan Lamazou, évidemment, mais sur mon passeport, il y avait Antoine Lamazou. Et Chaban, à l'époque, a fait fi des lois, puisque à l'époque, c'était en 86 ou quelque chose comme ça, on n'avait pas le droit d'appeler un enfant autrement que par un prénom qui était issu du calendrier des saints. Chaban, à l'époque, a fait fi de la loi et m'a envoyé un nouveau passeport en DHL, et officiellement, je me suis appelé Titouan Lamazou à cette époque-là.
Et voilà.
Et depuis, il y a plein de petits Titouans. Et les gens continuent à penser que c'est d'origine bretonne.
Alors que pas. Voilà, maintenant, on a la véritable origine de ce prénom Titouan. Titouan, Lamazou, vers 10-11 ans, vous redéménagez. Vous déménagez à Tunis.
C'est mes parents, nommés, ils ont été mutés en Tunisie. Et ça a été un petit peu un tournant de ma vie. Il se trouve que c'était, je pense que l'époque, c'était à l'époque de mai 68. Je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Mais mai 68, je l'ai vécu, c'était la plage sans les pavés, hein, là-bas.
C'est-à-dire que c'était, Tunis, en l'occurrence.
C'était, ouais, Tunis, très très, c'était, j'en garde un excellent souvenir. Mais surtout, c'est à cette époque-là que je pense, enfin, c'est ce qu'on raconte dans la famille, en tout cas, que j'ai décidé que je serais un artiste.
Décidé
que je serais artiste peintre dans ma vie. Pourquoi? Parce que je pense que du haut de mes 3 ou 4 pommes, du haut de mes 11 ans ou 12 ans, je voyais le statut des artistes comme fort enviable. Peut-être le plus honorable et le plus enviable dans ce que je pouvais voir de la société des hommes.
Vous aviez contact avec des artistes?
Très peu.
Donc c'est une image, une représentation mentale?
Autodidacte, oui. Alors je pense que j'avais comme image plutôt des artistes du type, bon, mettons Gauguin, par exemple, mais on pourrait parler de Courbet, de Caravage, de Goya, un peu des libertaires, des anarchistes, des révoltés, des provocateurs.
Mais attendez, à 10-11 ans, on n'ouvre pas comme ça, enfin, on ne connaît pas comme ça Gauguin.
Les artistes seraient un peuple de mendiants s'ils devaient rendre à Dürer ce qu'ils lui ont volé. Et je pense que tous les artistes copient d'autres artistes ce que les gens ont fait. C'est-à-dire qu'on n'invente rien ou très peu. Et à l'époque, déjà, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Google, n'est-ce pas, etc. Mais en revanche, il y avait beaucoup de publications.
Vous étiez attiré par ça, déjà.
Voilà.
C'est ça, en fait.
J'étais très attiré par
c'est
ça.
C'est d'abord une attirance.
Et par ça, j'étais attiré par le dessin aussi. Bon, mais tous les enfants dessinent, hein, on peut dire.
Mais le problème, c'est qu'on continue pas souvent.
Je dessinais, je pense, un petit peu mieux que la plupart de mes camarades. Je recevais pour ça des félicitations. Ça fait toujours plaisir. Donc, j'ai peut-être voulu que ces félicitations et cette satisfaction perdurent. Et donc, je me suis orienté vers ça. Et il se trouve que quand on rentre à l'âge où on rentre au collège et que on a décidé d'être un artiste peintre, sans savoir exactement ce que ça veut dire, on n'est plus très motivé par l'enseignement public, quoi, disons, enfin, ce qu'on nous enseigne à l'école, parce que la part du dessin est extrêmement ténue dans l'enseignement conventionnel. Je suis devenu vraiment un très mauvais élément au collège et au lycée, que je me suis empressé d'abandonner avant de passer le bac.
Et pourtant, vous êtes, dès cette époque-là, Titouan Lamazou, un très grand lecteur. Vous découvrez aussi la lecture.
Oui, alors la lecture a eu beaucoup d'influence, je pense, sur... On va en reparler, je pense, très souvent, parce que je suis un... Ce qu'on dit, je trouve ça complètement idiot, d'ailleurs, comme appellation, un grand lecteur. Je suis un lecteur, il n'y a pas de grand lecteur.
Au sens où vous lisez beaucoup.
Je lisais beaucoup,
c'est ça que ça veut
dire.
Je
lis beaucoup, voilà. Et je...
Vous êtes un excellent lecteur aussi.
Et toujours, je me rappelle, c'était à l'époque, même si ça peut paraître prétentieux, mais j'avais 11 ans, j'avais eu une passion pour Salammbô de Flaubert, je me souviens. J'avais lu ça en Tunisie, d'ailleurs, à l'époque. Et puis j'ai toujours lu, et je pense que les auteurs ont été des passeurs. Il se trouve que j'ai une méthode de lecture qui est un peu particulière, parce que je crois que je retiens rien de ce qu'il y a dans le bouquin, mais la lecture elle-même me transporte. C'est une sorte de catalyseur de possible, un livre pour moi. Et l'avantage d'ailleurs, c'est que je retiens assez peu. Ce n'est pas comme ces universitaires qui retiennent des encyclopédies. Moi, je retiens rien. Ce qui est pratique d'ailleurs, c'est quand on aime beaucoup un livre et qu'on l'a lu un peu rapidement ou sans faire trop attention, on peut le relire. Il y a beaucoup d'ouvrages que j'ai lus des douzaines de fois. Avec grand plaisir, mais que ce soit des...
Il y a bien un moment où vous vous en souvenez quand même. Alors.
Oui, mais j'ai dû lire Guerre et Paix ou Comte de Monte Cristo 15 fois chacun. Voilà, et j'avais commencé très jeune, sans aucune prétention, parce que ça me transportait beaucoup, c'est Proust, mais très jeune. Alors que je pense que je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il racontait, mais en revanche, il y a une poésie. Il parle d'amour tout au long de ses œuvres. et qui m'ont transporté. Ça, je pense que je pourrais le relire jusqu'à la fin de ma vie sans problème, parce que aussitôt le livre refermé, j'ai tout oublié.
Transporté, vous l'avez aussi été, Titouan Lamazou, au moins une troisième fois dans votre adolescence, puisque vous rentrez en France avec vos parents à l'âge de 15 ans environ, disons, quand votre père a été nommé à Marseille.
Voilà, collège.
Vous arrivez à Marseille.
Lycée Marseille.
Lycée de garçon de Pau.
Est-ce que là vous... c'était juste avant de partir en Tunisie, ça c'était les lycées et collèges, ça n'existait pas trop, c'était tout dans le même établissement.
Là vous arrivez à Marseille.
Là j'arrive à Marseille.
Souvenir à ce moment-là de quelque chose?
Les souvenirs, c'est ce que la vie en fait, mais j'ai eu une rencontre qui a été relativement importante dans ma vie. C'est que je suis rentré en seconde et mon professeur de dessin est un homme qui m'a, disons, marqué, qui s'appelle Yvon Lecor. Il se trouve que c'était un artiste et un navigateur. Et cet homme, moi je crois pas beaucoup au maître-élève, c'est-à-dire que c'est pas lui qui m'a appris ce que je voulais devenir, mais il m'a ouvert, un peu comme les lectures, des possibles. C'est-à-dire qu'il a été aussi un catalyseur. Je me suis dit, il personnifiait ce dont je rêvais. Et c'était un homme qui était à la fois un virtuose du dessin, qui en vivait, en quelque sorte, même s'il était prof des écoles, et qui était un navigateur. Et déjà, à l'époque, c'est lui, quand même, qui m'a orienté vers cette voie dans laquelle je me suis fait connaître, qui était la navigation, parce que pour moi, j'étais quand même un fils de paysan béarnais, on était très très éloignés des littoraux, et j'ai fait ma première croisière sur le bateau de mon professeur de dessin, Yvon Lecor, qui était à la fois un hédoniste, un communiste, un révolté, enfin il représentait le personnage, personnifiait un petit peu ce que j'imaginais être ma vie. Voilà, et ça a été un personnage pour ça, et dont j'ai cultivé l'amitié jusqu'à son décès récent, et qui était bien plus âgé que moi. Et il se trouve que mon année scolaire de lycée, ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'elle s'est achevée à la fin de ma seconde. Donc je suis parti avec bac moins 2, parce que à l'époque, d'ailleurs lui aussi, a interrompu sa carrière de professeur dans l'enseignement public, et il n'y est jamais revenu. Et moi, je suis jamais revenu non plus à mes études, sauf que je suis rentré aux Beaux-Arts à l'époque, parce que c'est ce que je voulais faire, moi, un peintre, il fait les Beaux-Arts.
Ouais,
mais on n'avait pas besoin du bac à l'époque, on présentait un dossier, et je suis rentré à l'école des Beaux-Arts de Marseille, où je suis resté 3 mois parce que ça m'a rappelé trop le lycée, et j'ai trouvé mon bonheur à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. C'était l'époque hippie, un petit peu. Il y avait toute cette période. Et il n'y avait pas vraiment une école. Les ateliers étaient disséminés dans la ville. Alors on est d'un atelier à l'autre. Et j'étais un élève assez brillant, puisqu'ils m'ont fait sauter la deuxième année. Parce que je voulais vraiment devenir artiste peintre. Dans les 2 premières années de Beaux-Arts, c'est peut-être toujours comme ça aujourd'hui. On nous apprend les diverses disciplines du métier qui vont de la pub à la sculpture, à la ferronnerie. Moi, je voulais être peintre. Et à l'époque, j'avais mon prof de dessin, qui est un artiste qui est fort connu des connaisseurs, disons. Monsieur Bioulès, qui lui appartenait à un mouvement à l'époque d'art contemporain qui s'appelait Support Surface, qui était mon professeur de dessin académique, mais qui était surtout le professeur de l'atelier dessin, de peinture, qui commençait en 3e année. Et Bioulès, j'étais pris apparemment d'affection pour moi, enfin il m'aimait bien, et c'est lui qui a demandé à l'école de me faire sauter la 2e année pour rentrer dans son atelier en 3e année directement. Et il m'a fait découvrir un certain nombre de choses, lui il doit pas s'en souvenir du tout, mais comme il voyait que j'étais attiré par le dessin figuratif, des choses comme ça, il m'a fait découvrir le pop art, les Rauschenberg, c'était cette époque-là. Je me rappelle aussi qu'il devait s'ennuyer ferme quand il donnait des cours de dessin académique parce qu'il nous faisait la lecture. Et je me rappelle, il m'a fait découvrir des auteurs, comme je me souviens très bien de Buzzati, par exemple.
C'est-à-dire qu'il lisait pendant que vous dessiniez pendant son cours.
Il y avait un modèle qui posait. Voilà. Et il nous faisait lecture à voix haute. Voilà. C'est pour ça que j'appréciais peut-être son cours. Voilà. Bon, mais il se trouve que je suis rentré, donc très content, dans son atelier en 3e année. Et au bout de 3 semaines, je suis parti, et là, pour ne plus revenir, c'est-à-dire qu'était venu pour moi le temps des Et était venue à ce moment-là la période des alizés, qui fait que que c'est la période où les bateaux vont traverser l'Atlantique pour aller sous les tropiques. Et il se trouve que depuis quelques années, grâce à mon professeur de dessin au lycée, Yvon Lecor, il m'avait initié au récit maritime. Je ne sais pas si ça vous dirait quelque chose de Josué Asselocoum, par exemple,
non.
Seul autour du monde, dont l'ouvrage a été illustré d'ailleurs par un peintre de la marine qui s'appelait Hafner. Magnifique ouvrage. Il m'a fait découvrir Bernard Moitessier.
C'est quoi cette histoire
C'est le premier navigateur solitaire qui a fait le tour du monde en solitaire sur un petit voilier. Voilà. Josué Asselocoum. Et par hommage à Asselocoum, Moitessier, qui s'est distingué plus tard comme navigateur également tour du monde en solitaire, avait appelé son bateau Josué. Ces lectures m'ont donné envie de suivre cette route. Il se trouve qu'à l'époque, à cette époque, le mot partir voulait dire quelque chose. Enfin, c'était très, très dans l'air du temps.
On est dans les années 70, là?
Oui, voilà, début des années 70.
Tournant des années 70.
Donc, en majorité, mes camarades étaient plutôt tentés vers les routes de l'Orient, vers Kaboul.
Katmandou, par exemple.
Kaboul
encore, à cette époque-là.
Ça leur viendrait pas à l'idée aujourd'hui, je suppose. Et moi, j'ai été attiré par une autre route, c'est-à-dire que je suis pas parti sur la route de Jacques Kerouac, je suis parti sur la longue route de Bernard Moitessier, qui était son ouvrage best-seller à l'époque.
Dites-nous, parce que tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ne le connaissent pas, c'était qui Bernard Moitessier ?
Alors Bernard Moitessier était un type que j'ai bien connu par la suite, mais à l'époque je connaissais que ses ouvrages et sa réputation, et c'est un vagabond. D'ailleurs, son premier livre s'appelait « Le vagabond des mers du Sud ». Et il s'est distingué à une époque où a été organisé ce qui s'appelait le Golden Globe, qui récompensait d'un globe en or le premier navigateur qui effectuerait le tour du monde en solitaire sans escale. C'était bien avant le Vendée Globe, c'était en 68 d'ailleurs. Et Bernard Moitessier s'était inscrit dans cette épreuve. Et il était en tête d'ailleurs, avec le peu d'informations qu'on pouvait avoir sur les bateaux à l'époque, mais c'était lui qui risquait de remporter ce globe en or. Et il a trouvé que c'était beaucoup de vanité et qu'il n'en avait pas grand-chose à faire en fait. Et lorsqu'il a doublé le Cap Horn, au lieu de remonter l'Atlantique pour revenir au port de départ qui était en Angleterre pour recevoir sa récompense, il a fait cap à l'est et il a continué à naviguer, il a fait un tour et demi, il est allé jusqu'à Tahiti. Donc il a délaissé sa victoire qui lui était acquise. Et pour ça, il a eu un grand renom dans le monde de la voile de l'époque. Voilà. Et c'était un petit peu la version babacool d'Éric Tabarly, si vous voulez.
Éric Tabarly, dont vous nous parlerez dans le deuxième épisode, Titouan Lamazou. Et de envie de voir le monde et de prendre le large.
Que... je suis parti, et comme j'étais vraiment... Bon, mon professeur de dessin m'avait embarqué comme équipier sur son bateau, mais je connaissais...
croisière en mer du Nord,
je connaissais, oui, j'avais navigué en Bretagne, c'était un breton, lui. Et en Bretagne, mer du Nord, mer d'Irlande, enfin, je connaissais rien en bateau. Je suis parti sur les ports pour faire ce qui s'appelle du bateau-stop. Je demandais au bateau en partance des émules de Moitessier qui partaient autour du monde s'ils n'avaient pas besoin d'un équipier. Et c'est ainsi que...
De stop en stop, Baléares, voilà. Canaries...
Voilà, exactement.
Vous êtes arrivé à Sainte-Lucie.
Et je suis arrivé aux Caraïbes où j'ai séjourné quelques années. Alors c'est sûr que si vous m'aviez dit à l'époque où j'attendais un bateau aux Canaries, à Las Palmas, si vous m'aviez dit que quelques années plus tard j'allais... croiser à nouveau ces îles en tête de la plus incroyable course qui ait jamais été organisée, qui était le Vendée Globe.
Vous ne m'auriez pas cru ?
Je vous aurais certainement pas cru.
Juste pour terminer cet épisode, Titouan Lamazou, sur la peinture, parce que vous avez commencé en disant que c'était quand même votre décision vers 11 ans, 12 ans, de devenir peintre. Votre premier tableau, c'est là que ça rejoint quand même le navigateur que vous avez été en tout cas, Il me semble que votre premier tableau représente une scène de bord de mer, je me trompe? Avec des voiliers, des hommes en pantalon rouge, qui s'appellent les pêcheurs d'Arcachon.
Le premier tableau qui a été encadré dans le salon de mes parents. Et tout le monde...
On parle d'un tableau, on parle pas d'un dessin d'enfant.
Non, c'était un grand tableau. Si vous voyez, c'est un petit côté que j'aimerais bien retrouver aujourd'hui, une spontanéité quand même. Des dessins des jeunes gens en général, que les vieux peintres comme moi essayent de retrouver cette fraîcheur. Et c'était une inspiration maritime, parce que j'ai imaginé le port d'Arcachon, parce qu'on m'avait dit à l'époque que les marins d'Arcachon avaient des pantalons rouges.
Vous n'y étiez jamais allé. Vous étiez à Tunis, à Casablanca, voilà, à Marseille, mais non.
Jamais allé à Arcachon. Et donc j'avais peint un tableau fort peu réaliste, parce que tous les bateaux dans le port ont toutes les voiles dehors, etc., etc. Mais il y a des marins avec des pantalons rouges. Et voilà, c'est une œuvre qui est restée chez mes parents depuis toujours, et qui est encore accrochée dans la maison familiale.
C'est intéressant parce que c'est aussi à la fois une œuvre figurative, puisque de fait, vous avez peint des pêcheurs, même s'ils sortaient de votre imaginaire, mais justement, c'est aussi onirique, c'est aussi fantasmé. Oui. Et donc, ça rejoint les deux bouts de la peinture que nous allons développer tout au cours de ces cinq entretiens, parce qu'il y a de la peinture figurative, beaucoup, il va en être question dans les épisodes 3 et 4. Et depuis quelques années, et là où nous sommes, le représente bien, nous sommes dans votre atelier à Paris, Titouan-Lamazou, et au mur, de part et d'autre, il me semble que c'est plutôt des toiles, comme les dernières toiles que vous avez faites, ce sont des toiles beaucoup plus oniriques, contemplatives. Alors, c'est plein de couleurs sur ma gauche derrière vous, c'est flamboyant, du violet, du rouge, du orange. De l'autre côté, c'est plus bleu et vert, des couleurs chaudes et des couleurs froides.
Oui, si on va dans cette peinture, c'est-à-dire qu'il y a, contrairement à ce que j'ai peint beaucoup dans ma vie, c'est le vivant non humain, et ça témoigne de mon émerveillement pour la biodiversité, qu'elle soit terrestre ou maritime, et que j'exprime en prenant quelques libertés sur le réalisme.
C'est ça, c'est ça. On va commencer par le réalisme, on terminera par votre onirisme, qui sont donc les dernières œuvres. Merci beaucoup pour ce premier épisode. Demain, pour l'épisode suivant, nous parlerons de ce qui s'est passé après le bateau stop, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes arrivé à Sainte-Lucie et la suite de votre navigation professionnelle, on va dire, et de vos championnats.
Mon bref parcours professionnel.
Vos 5 à 10 ans même, maximum, 5 ans même.
7 ans.
7 ans, voilà, entre 5 et 10 ans, 7 ans de course. À suivre donc l'épisode 2, c'est la mer qui prend l'homme. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Titouan-Lamazou, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Benjamin Troncin et Benjamin Reyes, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.